Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'aqdatan min lisani yafqahu qawli. Toutes les louanges reviennent à Allah Rabbul Izzah qui nous donne la possibilité de vivre cette dernière décade du mois béni de Ramadan. Par la grâce d'Allah, on a eu la possibilité de le dernier audio, dernier programme, de parler des habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette dernière décade. Et on avait mis en avant le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam donnait de l'importance à chaque nuit, père ou un père, et il passait l'intégralité de ses nuits en adoration, en ibadah, à la recherche de l'agrément divin. D'ailleurs, les hadiths stipulent que celui qui passe la nuit du destin, donc en adoration, à la recherche de l'agrément divin, hein, obtiendra telle récompense. Ce qu'on doit retenir, c'est que les actions ne doivent pas être accomplies de façon automatique, traditionnelle. Ce ne sont pas des actions que, voilà, des, comme on dit parfois, des wazifas, des amal qu'on a l'habitude de faire et qu'on nous a enseigné, qu'on fait toutes les nuits, père ou impair de la dernière décade. Il faut de l'implication qui vient du cœur. Il faut réaliser que ces actions que je suis en train d'accomplir, ça me permet d'obtenir l'agrément divin, son pardon, et d'avoir des récompenses et d'avoir un rang auprès d'Allah Azza wa Jal. En accomplissant ces bonnes œuvres, je recherche le contentement de mon Seigneur, mais avant tout, je me sauve moi-même. Je suis en train de me sauver. Je me sauve, je me protège du feu de l'enfer, je me protège du châtiment divin. Je peux obtenir ce pardon dont j'ai tellement besoin par rapport au péché que j'ai cumulé. Et Allah Rabbul Izzah nous rappelle, Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah nous demande de, oh, vous qui avez la foi, protégez-vous, sauvez-vous, et ensuite sauvez vos proches du feu de l'enfer. Et c'est vraiment l'occasion de mettre cette action en pratique. Quand on passe une nuit à Ibadah, je le répète, on est en train de se protéger soi-même et de s'éloigner soi-même avant tout de l'enfer, de la colère d'Allah Rabbul Izzah, et d'obtenir les récompenses promises par notre Seigneur. Ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, on va aller un petit peu plus vers l'étymologie de Al-Qadr. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la nuit du destin, certes, mais le mot Qadr en trois lettres, ça veut dire quoi? On ne va pas être très long sur cette thématique. Il y a deux sens de le mot Qadr. Le mot Qadr en arabe veut dire l'importance. Et dans la façon de parler de nos parents, de nos grands-parents, parfois on a entendu les anciens, c'est les anciens qui parlent, on a dit « faire kadar », il faut faire kadar de telle chose, faire kadar de la nourriture, ainsi de suite. Faites kadar de vos parents qui sont toujours vivants. Kadar, qui vient du mot « qadr », ça veut dire donc, c'est de l'arabe, c'est donner de l'importance à quelque chose. Laylatul Qadr, c'est une nuit d'une grande importance, d'une grande valeur, sans le moindre doute, la nuit qui a le plus de valeur de toute l'année, la nuit la plus importante. Pourquoi est-ce que c'est la nuit la plus importante? Les savants disent qu'il y a différents événements qui se sont produits durant la nuit du destin, durant Laylatul Qadr. Premièrement, le fait qu'Allah Rabbul Izzah a révélé en une fois le livre le plus important, le Coran, à l'attention du prophète le plus important de l'humanité et destiné à Ummatin Dhi Qadrin, à une communauté, la communauté qui a la plus d'importance auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ce Coran a été révélé, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, lors de la nuit du destin. Et bien sûr, il fait référence à la première révélation, Jumla Wahida, en une fois. Deuxièmement, les savants disent également que pourquoi est-ce que cette nuit est aussi importante? Parce que durant cette nuit, Allah Rabbul Izzah fait descendre des anges qui ont une importance capitale dans le alam al-malaika, dans le monde des anges. C'est-à-dire les anges les plus importants descendent sur terre, littéralement descendent sur terre. Et ça se passe de la nuit du destin avec à leur tête l'ange Jibril alayhi salam. Et dans certains textes, on retrouve également qu'il y a des anges spécifiques qui descendent une seule fois de l'année, c'est durant la nuit du destin, et ils viennent assister et témoigner de la présence des personnes qui sont réveillées et qui passent leur nuit en ibad. Et ça fait appel à notre yaqin, notre conviction, notre croyance en Allah, notre acceptation de tout ce qui vient de l'invisible. Et quand on est réveillé la nuit, on doit également se dire du coup que les actions que je suis en train d'accomplir, là je reste, mashallah, debout dans ma prière depuis 1h, 1h30, mais je me dis qu'il y a à ce moment des malaïkas qui sont là. Ils sont venus spécialement envoyés par Allah pour, entre guillemets, repérer et trouver. Et Allah c'est mieux, Allah n'a pas besoin de ses anges bien sûr, mais c'est la sunna d'Allah, l'organisation d'Allah, pour trouver ces gens qui ont répondu présent. Et donc quand je suis réveillé, même si des fois je suis fatigué, même si en faisant doua je somnole, même quand je suis à ma 8e raka de tahajjud, des fois je ne sais plus est-ce que c'est la première unité de prière, la deuxième, est-ce que des fois je m'endors de mon tashahhud, mais malgré ça, malgré ses manquements, malgré ses faiblesses, on doit être satisfait qu'Allah nous a choisis pour être présents et on doit en même temps ressentir un peu de fierté. Mais c'est une fierté positive, être fier qu'Allah nous voit à cet instant et faire ce qu'on appelle de l'ostentation pour notre Seigneur. C'est-à-dire montrer à Allah notre implication, notre volonté, notre présence d'esprit et que même quand on est fatigué, qu'on se ressaisisse, quitte à des fois on s'est endormi, on dit Astaghfirullah, oh Allah, aide-moi à m'accrocher. C'est-à-dire que nos nuits, il faut être très réaliste, les nuits que nous allons passer en ibadah et que nous avons commencé à passer depuis le début de la décade, ça n'est pas comparable à ce qu'Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, faisait. Ça n'est pas comparable aux nuits de Omar ibn al-Khattab, de Uthman, de Ali ou des autres sahaba. Nos nuits ne sont pas comparables, nos nuits de ibadah sont incomparables avec celles de l'imam Bukhari, de l'imam Muslim, d'Ibn Kathir. Mais on fait de notre mieux et notre intention est sincère, le niyyah. Et les efforts sont là. Et nous, on se base sur deux textes qu'on avait évoqués la dernière fois. Un, les actions ne valent que par nos intentions. Notre intention est sincère. Donc, Allah, Inch'Allah, va accepter. Deuxièmement, quand on fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers nous. Ben là, quand je suis réveillé, même si la qualité n'y est pas, mais j'ai fait un pas vers mon Seigneur. Et assurément, Allah, Rabbul Izza, me regarde avec beaucoup d'attention et va accepter mon effort. Donc, réaliser qu'il y a des anges spécifiques qui descendent des cieux, c'est pour ça que c'est une des nuits les plus importantes. Les savants disent également pourquoi une nuit extrêmement importante, parce qu'en cette nuit, Allah fait descendre une quantité de baraka, de bénédiction, de rahma, de clémence et de maghfira et de pardon plus que toutes les autres nuits de ce dunya et de l'année. Être conscient que quand je suis présent lors de la nuit du destin, même si mes ibadah, comme on a dit, sont très limités parce que je n'ai pas l'habitude de passer des nuits ou même des heures en prière le soir, en dehors du mois béni de Ramadan. Mais même ça, se dire que être présent, c'est réceptionner la rahma qui descend. C'est postuler au pardon divin. C'est réceptionner la baraka, avoir les deux mains levées et obtenir de cette grâce divine, de cette bénédiction qui est en train de descendre lors de la nuit du destin. C'est-à-dire qu'être présent la nuit du destin et les nuits de la dernière décade, c'est forcément être gagnant. C'est forcément être élu et choisi par Allah. Donc, ikhwan et khawat et fillah, c'est pour toutes ces raisons et d'autres encore qu'on n'a pas mentionnées et que Ibn Rajab al-Hanbali le mentionne dans son livre la Taif ou le Ma'arif, voilà pourquoi on appelle Laylatul Qadr une nuit d'une importance suprême et capitale à ne rater, donc sous aucun prétexte, vraiment, vraiment sous aucun prétexte. Et bien sûr, les savants disent également d'une grande importance parce que c'est la seule nuit de l'année où on peut cumuler 83 années de hasanat, de récompenses. Mais là aussi, on doit être capable de se projeter vers ce chiffre astronomique. Ben, 83 années, ben, ça correspond à notre époque à l'espérance de vie d'une dame. Ça correspond à l'espérance de vie de la plupart d'entre nous. Ça veut dire que chaque nuit, chaque année, Allah me donne la possibilité de cumuler une vie de ibad. Et ça découle de la clémence d'Allah et de l'amour qu'Allah a pour cette umma, chose qu'il n'a donnée à aucune autre communauté. Quand on commentait les versets au début du mois béni que le jeûne Vous a été prescrit comme il était prescrit à ceux qui sont venus avant vous. Allah a prescrit le jeûne à toutes les religions, à toutes les communautés avant nous. Mais la nuit du destin, c'est quelque chose qui est spécifique à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme la préservation du Coran est spécifique à nous. C'est une marque d'attention de notre Seigneur pour nous. Et à nous donc de répondre présent et d'une certaine façon d'être méritant. On va dire de mériter cette faveur qu'Allah nous a accordée. Le deuxième sens du mot Laylatul Qadr, Qadr, c'est le sens qui est plus connu, qui est la racine du mot qu'on connaît, Taqdir, destin. Parce qu'on sait que c'est la nuit où Allah prédestine ce qui va se passer pour chacun d'entre nous, au moins pendant un an. Les savants disent Yuqaddiru fiha ma yasha'u ila sanatil qabila. Allah prédestine ce qui va se passer jusqu'à la prochaine année. Ani ibn Abbas, radiyallahu anhuma, c'est une citation d'Ibn Abbas, il dit Inna Allah qaddara ma yakunu fi tilka sanati min matarin wa rizqin wa ihya'in wa imatatin ila mithla hadhihi al-laylati min as-sanati al-atiyah. Allah rabbul 'izza a prédestiné ce qui va se passer jusqu'à l'année prochaine. Même la pluie, le nombre de fois où il va pleuvoir, le nombre de gouttes de pluie dans ce dunya, le risque, la subsistance de chacune de ces créatures, ceux qui vont vivre, ceux qui vont mourir durant cette année, et cela jusqu'à l'année prochaine. Donc il y a des événements qui sont fixés durant cette nuit, et par rapport à ça, nous sommes tous inquiets pour notre avenir, nous le disons toujours, nous sommes inquiets pour nos enfants, pour notre situation financière, notre stabilité, ainsi de suite, notre santé. Mais quand nous savons que c'est dans cette nuit que ces décrets tombent et sont enregistrés par les malaïkas, j'ai oublié de mentionner, Allah Rabbul Izzah a déjà tout prédestiné avant la création des cieux et de la terre, mais durant la nuit du destin, les décrets d'une année à l'autre sont révélés aux anges qui, à leur tour, vont inscrire et vont, d'une certaine façon, les appliquer et vérifier leur application, les mettre en application. Après, comment ça se passe, ce sont des choses qui appartiennent à Allah, Azza wa Jal. Donc moi, mu'min, sachant que de telles décisions sont révélés durant cette nuit, ben il m'appartient de lever les mains et demander à Allah le meilleur pour nous. Maintenant, la question qu'on peut légitimement se poser, mais si tout a déjà été prédestiné avant même la création des cieux et de la terre, en quoi mes demandes vont-ils changer ou influencer ce qui va être révélé? Et là, ça nous ramènerait vers un débat, enfin, c'est pas un débat, vers un développement qui risque d'être très complexe concernant le destin, qu'on avait un petit peu évoqué lors du premier programme de la préparation de la dernière décade, et on avait dit que la compréhension totale du destin, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, parce que cela vient d'Allah Rabbul Izza, ça vient donc du Ghaib, ça vient donc de l'invisible. Mais nous, les pistes dont nous disposons et qui nous permettent d'avoir et qui doivent nous donner de l'espoir et qui nous incitent à, justement, on donne la réponse à faire dua, c'est justement le fait que notre prophète alayhi salat wa salam nous a informé que les dua, les invocations peuvent changer le destin. Les dua que le mu'min va faire peuvent changer le destin. Après, d'une certaine façon, si on se projette vers un temps infini qui est dans le ilm, la connaissance d'Allah, Allah sait pertinemment les doigts que nous allions faire avant même que nous soyons venus au monde. Et par rapport à ces invocations, Allah nous a déjà accordé ce qu'il a décidé. Donc c'est extrêmement complexe à comprendre parce que ça fait sauter le verrou espace-temps totalement et qui nous dépasse, du coup ça dépasse l'entendement. Et c'est une science qui appartient à Allah Azza wa Jal. Mais ce que nous comprenons dans notre compréhension humaine, c'est que quand je fais doua, Allah peut m'accorder ce que je demande. Voilà, c'est un schéma qui est, à mon sens, amplement suffisant. Quand je fais doua, Allah peut m'accorder directement ce que je demande. Ou Allah peut m'accorder quelque chose qui sera mieux. Mais au moins, Allah, Rabbul Izzah, entre guillemets, il voit, il entend que je manifeste une demande concernant mes enfants, concernant mon travail, concernant ma santé, concernant mon couple, concernant mes parents, concernant ma situation d'une façon générale. Et en faisant doua, on a la possibilité d'obtenir ce que nous demandons. Donc c'est la nuit par excellence, on doit redoubler d'efforts dans les doua. Et dans un prochain programme, on abordera Inch'Allah. Bon, c'est vrai que plus on fractionne ces programmes, la nuit du destin a plus de chances de passer, hein. On approche la fin du mois béni, mais on peut pas tout citer en une intervention. Il faudrait qu'on voit la bonne répartition du temps lors des nuits impaires, ne pas uniquement faire les prières, non, partager le temps entre prières, lecture Coran, dhikr, istighfar, mais une grande partie de cette nuit, je m'avancerai même en disant la moitié de notre temps consacré aux nuits de la dernière décade, la moitié de ce temps doit aller dans les invocations, les doua, parce que c'est la nuit où, on le répète, les décrets sont révélés. Donc faisons doua pour que nous ayons le meilleur destin. Et le prophète alayhi salat wa sallam, en disant que les doua peuvent changer le destin, ça veut dire quoi? Les savants disent que Allah Rabbul Izza révèle des décrets aux anges, mais par rapport à certaines invocations ou certaines actions que nous allons accomplir, ben Allah Rabbul Izza peut ensuite donner d'autres directives aux anges. Ça ne veut pas dire pour autant que la décision divine finale ou que le destin final, na'oudhu billah, n'était pas connu de notre Seigneur avant de faire le doigt. Aucunement. Allah envoie un décret. Et ensuite, Allah décrète que nous-mêmes, nous accomplissons une action qui va nous apporter quelque chose. C'est-à-dire que dans ce décret divin, ce sont les malaïkas, les savants disent, qui à un moment donné ne savent pas que le destin va être changé. Le décret nous concernant va être changé par rapport à une action. Je sais, c'est très complexe. J'ai eu du mal à expliquer parce que ce sont des choses que nous ne sommes pas censés décrypter et comprendre totalement. Cela appartient à Allah Azza wa Jal. Mais ce que je retiens et je dois mettre en application immédiatement, c'est les invocations. Multiplier les doigts. Fi dunya rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Demander le meilleur pour nous de ce monde et de l'au-delà de notre akhira et de ce dunya, parce que les doigts peuvent changer le destin. Et parmi ces actions, petite parenthèse, que notre prophète alayhi salat wa salam nous a enseigné concernant la modification la modification du destin en bien pour nous, c'est l'aumône. On sait que la sadaqa éloigne les difficultés, ce qu'on peut appeler également les balas. Ça veut dire que s'il est possible qu'il y ait quelque chose de mauvais, de négatif qui nous était prédestiné, et cela découle de la sagesse de notre Seigneur pour une raison que lui seul sait, et que par une aumône on donne la sadaqa, Allah Rabbul Izzah éloigne ces difficultés. Donc l'aumône fait partie des actions qui nous ouvrent les meilleures portes du destin. Et également silatul rahim, une action extrêmement importante et qui est en perte de vitesse malheureusement à notre époque, le fait de garder de bonnes relations avec la famille, le fait d'entretenir les liens de parenté, c'est quelque chose qui augmente l'espérance de vie. Tout le monde souhaite vivre longtemps. Les gens disent « Allah te donne longue vie », etc. Mais l'espérance de vie dépend, de cette action, même si, bien sûr, là, il y a aucune, ça ne se décrypte pas, ça ne se comprend pas par des tests scientifiques. Hein. N'allez pas dire à votre médecin, à votre cardiologue, que si je vais rendre visite à ma grand-mère ou à ma tante régulièrement, est-ce que vous pensez que mon cœur tiendra plus longtemps? Ça ne tiendra pas la route. D'accord? Le médecin va se poser des questions, il va vous orienter plutôt vers un psychiatre. On comprend que ce sont là des choses qui nous dépassent. Allah a décrété qu'entretenir le fait d'entretenir de bonnes relations avec la famille, Allah nous accorde encore plus de baraka dans notre vie. Donc voilà quelques pistes de a'mal saliha, parce que ce n'est pas tout que de faire doua uniquement ce soir. Il faut avec ça accomplir les bonnes œuvres qui vont conforter le meilleur des destins pour nous, entre autres le mon et le fait de garder, comme on l'a dit, de bonnes relations avec la famille. Maintenant là, si on devait, on a légèrement effleuré le sujet, il est normal que après avoir écouté quelques propos concernant le destin, on peut se poser la question, est-ce que tout est prédestiné ou il y a un libre arbitre? Et pour cela, on va pas développer parce que c'est des thématiques qu'on a eu bien l'occasion de parler quand on a expliqué cette branche de la foi qui est al-iman bil qada et wal qadr, croire au destin, et que nous on a appris de ce qu'on appelle traditionnellement les kalimas, on enseigne aux enfants wal qadr khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. C'est des thématiques qui sont très longues à développer, mais il y a une phrase de Al-Fakhr al-Razi rahimahullah qu'on retient. Al-Fakhr al-Razi, c'est un grand mufassir, un grand commentateur du Coran qui a écrit, rédigé un tafsir qui est magnifique, qui s'appelle At-Tafsir al-Kabir, qui est exceptionnel et qui est d'un niveau, subhanallah, tellement complexe qu'il est très difficile de s'accrocher, de comprendre tellement le Fakhr al-Razi est un grand, est un éminent savant. Il dit que il met en avant le fait qu'il y a eu les premières sectes, on va dire, les premières déviances qu'il y a eu dans l'islam, les déviances graves concernant les croyances, c'est concernant justement le destin. C'est pour ça qu'il ne nous appartient pas de débattre sur le destin, nous n'avons qu'à l'accepter et faire les bonnes œuvres qui vont nous apporter, qui nous donnent plus de chances d'avoir le meilleur des destins. Il dit qu'il y a eu donc deux sectes, qu'on appelle les Qadariyya, et les Jabariya. Les Qadariya, selon eux, yaqulun la qadra, il n'y a pas de destin. Parce qu'ils ont tous, ces deux sectes, ils se sont repliés sur leur esprit un peu cartésien, leur intelligence, pour décrypter le destin. Et c'est une erreur fatale, monumentale, je veux dire, mais ça a été fatal pour eux. Parce que c'est des thèses qui excluent, qui font sortir une personne de Ahl Sunnah wal Jama'ah, parce qu'il remet en cause une branche de la foi. Ils ont dit qu'il n'y a pas de destin. Parce que pour eux, selon leur logique, si tout est prédestiné, ça veut dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. Ça aurait été une injustice de la part d'Allah d'avoir prédestiné, par exemple, l'adultère pour une personne, et que du coup la personne n'a pas d'autre choix que de s'orienter vers ce funeste destin et d'accomplir ce péché décidé par Allah Rabbul Izzah. Donc ce serait injuste. Na'oud billah, c'est une approche, on va dire, entre guillemets, logique qui répond aux critères de réflexion de l'être humain et qui nous mène vers la perdition, parce que on est en train, na'oud billah, de remettre en cause le ilm d'Allah, une des qualités d'Allah, et dire que Allah ne sait pas. Astaghfirullah, ce qui va nous arriver dans 5 ans, dans 6 ans, parce que s'il le savait, ça aurait été, s'il l'avait déjà écrit pour nous, ça aurait été une injustice, ça aurait prouvé que on n'a pas le choix. Donc c'est une piste, et ils étaient fermes là-dessus, c'est un madhab, c'est une école de pensée, les Qadariya, mais ça prouve bien que avoir recours à l'intelligence pour décrypter le destin, c'est source de perdition. Et l'autre école qui est apparue très tôt pour contrer justement les Qadariya, ce sont les Jabariya. En arabe, quand on dit quelqu'un qui est majbour, c'est quelqu'un qui est obligé de faire quelque chose. Cette école dit que tout est prédestiné et l'homme n'échappera jamais à son destin. Mais là, ça condamne d'une certaine façon l'être humain et se dire que si tout a déjà été prédestiné, du coup, on jette l'éponge et on se laisse aller à ce qui a été écrit par Allah. Là aussi, c'est une approche totalement erronée. Et dans ce cas, c'est attribuer le dhulm, na'oud billah, à Allah qui nous prédestine des choses alors que nous sommes animés de meilleures intentions. Ça veut bien dire que les deux approches sont erronées, et l'approche correcte, c'est celle de Ahl Sunnah wal Jama'ah, qui est qu'Allah a déjà tout prédestiné avant la création des cieux et de la terre, et que quand nous sommes même dans le ventre de notre maman à un moment clé où l'âme, le ruh est insufflé, Allah prédestine et fixe le taqdir pour chaque embryon qui va devenir un être vivant. Et chaque année, Allah Rabbul Izzah prédestine ce qui va nous arriver durant donc Al-Aam Al-Muqbil, l'année en cours, l'année qui commence. Mais ce que nous devons faire, c'est les efforts et les doigts. Allah prédestine, mais par rapport aux efforts et des doigts que nous allons faire durant cette année. Donc à nous de mettre toutes les chances de notre côté et de faire ces doigts ce soir et le maximum d'efforts durant toute l'année. Voilà donc les deux sens du qadr, de le terme Laylatul Qadr, importance et destin. Et ce sont deux choses que nous retrouvons durant la nuit du destin. Deuxième thématique, comme on n'a pas eu l'occasion de faire un audio hier, du coup ça va regrouper deux thèmes qu'on devait aborder. Al-hikmatu min mashru'iyyatiha. Pourquoi est-ce qu'Allah Rabbul Izzah nous a accordé à nous, cette Ummah, de façon spécifique, cette nuit du destin? Et comme on a dit, cela découle de la rahmat d'Allah Azza wa Jalla. En deux mots, on va dire que c'est parce qu'Allah nous aime. qui nous accorde cette nuit. Dans le hadith qui était cité par Imam Malik, le prophète alayhi salatu wassalam avait reçu l'information de la part d'Allah Rabbul Izza concernant l'espérance de vie des autres communautés, des ummas avant notre communauté. Et le prophète alayhi salatu wassalam était un peu attristé du fait que notre espérance de vie est beaucoup moins longue. Et du coup, on a moins d'années pour faire des ibadas. فَأَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ. Allah a accordé au prophète alayhi salatu wassalam la nuit du destin, وَجَعَلَهَا خَيْرًا مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ, et a fait de cette nuit une nuit qui vaut plus de 2000 mois. Il y a également le hadith de Ali ibn Urwa radiallahu anhu qui dit que ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أربعة من بني إسرائيل. Le prophète عليه الصلاة والسلام avait raconté aux sahaba une fois l'histoire de quatre croyants parmi les Israélites de Banu Israël qui avaient fait l'adoration d'Allah de façon continue pendant 80 années. Et pendant ces 80 années, ils n'avaient pas désobéi à Allah Azza wa Jal une seule fois. Suite du hadith, et les sahaba fa'ajiba. Ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba étaient impressionnés par ces actions et d'une certaine façon un peu attristés du fait que eux n'allaient pas vivre, ne vivaient pas aussi longtemps que les Banu Israël et ne pouvaient pas donc avoir autant de chances d'adorer Allah Azza wa Jal. Et là, l'ange Jibril alayhi salam fa'atahu Jibril faqal ya Muhammad. L'ange Jibril est venu voir le prophète, dit que oh Muhammad, ta communauté, tes compagnons ont été impressionnés par l'histoire de ces personnes qui ont adoré Allah pendant 80 années sans le désobéir. Sache que Allah t'a accordé mieux que ça, a accordé à ta umma ce qu'il n'a pas accordé au Banu Israël. فَقَرَأَ عَلَيْهِ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Allah t'a révélé, il a Jibril alayhi salam, à lui les versets de la sourate إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Il a dit que ça, c'est mieux que ce qui a impressionné les sahaba et ta communauté. Le prophète alayhi salatu wassalam était très content qu'Allah lui accorde ce cadeau qui nous permet d'avoir autant et beaucoup plus même de récompenses que ceux qui ont vécu beaucoup plus que nous. Donc on comprend, on réalise que cela découle de la rahmat d'Allah et qu'Allah veut du bien pour nous. Allah veut que nous nous rapprochions de lui, que nous trouvons son pardon, et de ce fait Allah nous accorde cette nuit exceptionnelle qui revient tous les ans. Mais comme on a eu l'occasion d'écrire dans un post sur les réseaux sociaux et qu'on a dit également dans un audio, on ne peut pas savoir est-ce que nous serons encore vivants l'année prochaine. Allah seul le sait. Avec cette pandémie et d'autres qui vont suivre, Allah seul le sait. Personne ne peut se projeter sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Se dire que je vais vivre 60, 70, 80 années, j'ai encore des Laylatul Qadr à vivre. On doit tous considérer que cette année, Ramadan 1441-2020, c'est peut-être et c'est certainement, Allahu a'lam, ma dernière année, mon dernier Ramadan. Et donc, je dois faire le maximum d'efforts pour trouver le maghfirat d'Allah, obtenir sa grâce, sa clémence, donc son pardon, et demander à Allah le meilleur pour moi de ce monde et dans l'au-delà. Il fait doua pour qu'Allah m'accorde et la meilleure mort et la meilleure des résurrections, le meilleur hissab, le jour du compte, le jour de qiyam. On va s'arrêter à là pour aujourd'hui, inshallah. Il nous restera à voir dans le prochain programme, inshallah. Pourquoi est-ce qu'Allah ne nous a pas révélé cette date alors que notre Seigneur est généreux concernant la connaissance qu'il nous donne et la possibilité de nous rapprocher de lui? Pourquoi est-ce qu'Allah a gardé secret la date de la nuit du destin? Peut-être évoquer quelques signes qu'on peut voir pour reconnaître la nuit du destin. Et surtout, et c'est le plus important, les deux points les plus importants, qu'est-ce qui se passe durant cette nuit du destin et quelles sont les actions que nous devons faire absolument, et conclure par quelques conseils concernant la bonne répartition du temps dans la nuit du destin. Wa tawfiq illa billah, subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khair.